Le journal des idées, Jacques Munier.
L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est encore aujourd'hui un vaste chantier où demeurent de grandes zones d'ombre, ne serait-ce que le bilan exact des victimes. On dispose seulement d'un ordre de grandeur qui a une valeur symbolique pour prendre la mesure de l'ampleur de la tragédie, comme pour les 5 ou 6 millions de victimes de la Shoah. Le chiffre estimé pour l'ensemble du conflit mondial indique la jauge colossale de 5 fois celui de la Grande Guerre, qui fut une sorte de répétition générale au point de vue industriel, et de la guerre totale, soit 50 à 60 millions de morts. Deux historiens avaient dirigé en 2015 une entreprise collective d'histoire globale à la mesure de l'ampleur de l'événement, montrant comment ce processus de mondialisation avait modifié les catégories et les représentations de l'espace et du temps, formant un monde en soi et à bien des égards commun, jusque dans les pratiques sociales, comme la vie nocturne, celle des partisans, mais aussi celle des simples civils. Leur volumineux ouvrage portait ce titre éloquent, La guerre monde. Ayla Aglan et Robert Frank se référaient là à ce que Fernand Braudel avait appelé en son temps une économie monde. On peut rappeler que certains avaient eu alors la prémonition dès le début du conflit de son caractère global, comme De Gaulle dans son appel du 18 juin 40, alors que les États-Unis ne sont pas entrés en guerre. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays, déclarait-il. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. D'autres esprits encore plus anticipateurs avaient prévenu, comme le sénateur radical Albert Sarraut, dès 1929, que la déflagration mondiale se propagerait depuis l'Asie. C'est sur ce théâtre, écrit-il dans sa préface au livre de Georges Maspero sur l'Indochine, que dans un avenir peut-être moins éloigné qu'on ne le suppose, se jouera le plus grand drame de l'humanité. Et de fait, les historiens s'accordent aujourd'hui à considérer la guerre sino-japonaise en 1937 comme le véritable début du conflit planétaire avant l'Anschluss ou l'invasion de la Pologne. La fin de la guerre ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du monde qui en restera à cette échelle globale. Ce sont les déplacements massifs de populations, comme ceux des millions d'Allemands expulsés d'Europe de l'Est, mais aussi l'instauration d'un état de droit international ou encore la guerre froide. Et au-delà de cette date mémorielle du 8 mai 45, ou des traités de paix conclus en 1947 avec quelques-uns des vaincus, l'évidence s'impose vite que la guerre monde ne sera pas suivie d'une paix monde. La tentation est grande, du coup, de risquer aujourd'hui un coup d'œil sur ce qui peut faire monde en matière de conflits guerriers à notre époque. Dans le Figaro Vox, Gérard Chalian estime qu'au Moyen-Orient, la tension va encore monter. Accord sur le nucléaire iranien, bombardement orchestré par Israël, offensive turque contre les Kurdes, présence américaine en Syrie. Il y a des années que les tensions internationales n'ont été aussi vives au Moyen-Orient. Netanyahou a préparé d'une façon très médiatique le terrain à la très probable dénonciation du traité nucléaire par Donald Trump, sans révéler autre chose que ce que tout le monde savait, que jusqu'en 2003, il y a eu un programme nucléaire en Iran. L'accord signé en 2015 visant précisément à s'assurer de son abandon, au moins jusqu'en 2025. Même si l'Iran, vu la position acquise dans la région, de l'Irak au Liban en passant par la Syrie, n'a aucun intérêt à monter aux extrêmes, nombreux sont ceux qui souhaiteraient lui mettre des bâtons dans les roues en allant à l'affrontement, ou en misant sur l'effondrement du régime, comme les Américains dans la perspective d'un rejet du traité nucléaire et d'un maintien, voire d'une aggravation des sanctions. L'autre menace globale est aujourd'hui constituée par le djihadisme, comme l'ont montré les récents attentats meurtriers en Afghanistan. Dans Le Monde, Christophe Châtelot analyse les particularités du djihad en Afrique, telles que les observe notamment Marc-Antoine Pérouse de Monclos dans le livre publié à la Découverte sous le titre « L'Afrique nouvelle, frontières ou djihad ». Ce spécialiste du Nigeria invite à reconsidérer la mise en récit du terrorisme au Sahelistan. Selon lui, la notion d'arc de crise projette l'image d'un système de conflits interconnectés et entretient le fantasme d'une coordination stratégique à partir d'un commandement central. Il insiste sur le caractère local de ces mouvements djihadistes aux motivations plus politiques que religieuses, et il estime que les armées occidentales elles s'illusionnent sur leur capacité à mater des insurrections qui ont des origines sociales. Elles tombent dans le piège de la prophétie autoréalisatrice lorsque les décideurs exagèrent le caractère global de la menace, internationalisent en conséquence leur réponse au terrorisme et provoquent en retour une extension de l'ère d'opération des groupes djihadistes.